Bonjour à tous, bienvenue à ce numéro de entrevue sur Radio de la Paix. Il a été investi le lundi 20 janvier dernier, 47e président de la puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Lui, c'est Donald Trump. Dans ce numéro de entrevue, nous avons décidé de voir les implications de cette élection sur le continent africain, mais aussi quelles pourraient être les implications de cette élection de façon générale sur la marche du monde lui-même, d'autant plus que les États-Unis tiennent le lead en matière de gouvernance mondiale. Pour ce faire, nous recevrons dans quelques instants comme invité professeur Camara Moritier. Il est enseignant-chercheur, professeur titulaire d'histoire des relations internationales. Il est aussi secrétaire exécutif de l'Association des spécialistes des relations internationales et des études stratégiques africaines. Il est enseignant à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Soyez donc les bienvenus à ce numéro de entrevue sur Radio de la Paix.
Voici l'entrevue Radio de la Paix.
Professeur Camara Moritier, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le lundi 20 janvier dernier, Donald Trump revient donc à la Maison-Blanche comme 47e président des États-Unis. En tant que chercheur, mais aussi spécialiste des relations internationales, comment avez-vous vécu d'abord cette élection et cette investiture de Donald Trump?
Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez pour parler un peu de ce comeback qui était inespéré, mais dont Donald Trump a seul le secret qu'il a pu réussir au lendemain. Je crois que c'est un retour au pouvoir qui est une revanche pour Donald Trump, non seulement vis-à-vis de la classe politique américaine, qu'il avait donc vomi et qui lui a posé tout un tas de problèmes juridiques, etc. Donc, quand il revient, c'est une revanche sur l'histoire. En plus de cela, hors des États-Unis, sur la scène mondiale, surtout avec les partenaires européens des États-Unis, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par rapport aux obligations vis-à-vis de l'OTAN, je pense que c'était quand même une crainte que Donald Trump ne revienne au pouvoir, mais voilà, donc il a fait.
Le même lundi 20 janvier, suite à sa prestation de serment, Donald Trump prononce sa première allocution officielle avec des décisions fortes, déployer l'armée aux frontières avec le Mexique pour lutter contre l'immigration et d'autres décrets qu'il a signés dans la foulée donc de cette journée. Comment avez-vous apprécié cette, on va pas dire précipitation, mais cette diligence affichée par le président Trump de prendre toutes ces décisions le même jour?
C'était un discours orbi et orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde, parce que Donald Trump sait que l'impact de sa gouvernance ne se limite pas simplement aux États-Unis, mais au monde entier. Donc il se savait écouter, il se savait regarder, et les mots qu'il a utilisés sont en grande partie pour son électorat à l'intérieur des États-Unis, mais également pour le monde entier. Pour faire un petit résumé de ce discours pose d'abord les lignes directrices, non seulement de la politique intérieure qu'il compte mener pour les 4 prochaines années, mais aussi du comportement que les États-Unis auront en tant que leader sur la scène internationale. On accuse trop souvent d'être imprévisible. Mais moi, je pense que c'est peut-être le dirigeant occidental le plus prévisible qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il veut. Donc, quand on regarde son discours, c'est donc un reflet de sa prophétie de remodeler la politique intérieure des États-Unis, notamment sur les questions sociales, culturelles, énergétiques, celles touchant également à l'appareil judiciaire, à l'éducation et aux libertés individuelles. D'ailleurs, le premier décret qu'il a signé, sinon le tout premier qu'il a signé, porte sur l'annulation, n'est-ce pas, des 78 décisions, c'est-à-dire des lois, des directives qui avaient été prises par son prédécesseur Joe Biden, et il a fait d'une manière théâtrale. Il ne l'a pas fait dans son bureau à la Maison-Blanche, mais il l'a fait plutôt dans une salle omnisport, notamment le Capital One Arena, où il a signé devant une foule en liesse ce premier décret qui donc annule 78 décrets de l'administration précédente. Parce que pour lui, l'administration qu'il a précédée a trahi le peuple américain. C'est pour cela que le premier jour, quand il arrive au pouvoir, quelques heures sont seulement après son inauguration, il signe donc 26 décrets, 12 mémorandums et 4 proclamations qui sont tous listés sur le site de la Maison-Blanche. Donc, ces mesures qu'il a prises ont pour finalité de renforcer, selon lui, non seulement la souveraineté nationale, qui marque le début d'une ère dorée de l'Amérique, qui est fondée, selon ses propres mots, sur le concept de l'American First, est censé redonner la prospérité, la sécurité à l'Amérique face au reste du monde. Donc, sur le discours, quand vous le regardez, à 98%, il est adressé aux Américains, notamment à ses électeurs, mais également, il n'oublie pas de se rappeler au bon souvenir du monde entier et de dire qu'est-ce que les États-Unis seront au sein de la communauté internationale pour les 4 prochaines années. Et je vous rappelle une phrase qu'il a dite dans son discours et qui n'est pas passée inaperçue. Il a dit « Nous assurons le succès par les batailles que nous gagnerons, mais surtout par les guerres que nous terminerons. Mon héritage, dont je serai le plus fier, est d'être un pacificateur et un libérateur. » Donc c'est tout un programme.
Alors, professeur Camara Moritier, lorsqu'on a écouté ou qu'on réécoute donc cette allocution de Donald Trump, aucune allusion au continent africain dans ce premier discours. Est-ce qu'il faut y voir un mauvais signal pour le continent africain quant aux relations États-Unis-Afrique, quand on sait que lors de son premier mandat, Donald Trump n'a jamais mis les pieds en Afrique?
Non, je ne pense pas. Quand vous écoutez le discours, il n'y a également aucune référence à l'Europe, par exemple. Donc c'est conforme à ce que Donald Trump veut faire, American First. Il a été donc élu par les Américains pour travailler pour les Américains, pour les préoccupations américaines. Donc, il ne fallait pas s'attendre qu'il fasse un discours sur chaque continent ou chaque pays. Je pense que ce n'était pas le sujet. Et donc, ça, c'est un élément important. Mais quand on parle de l'Afrique, il faut savoir que l'Afrique n'est pas un sujet aux États-Unis. Pas du tout. Pendant la campagne, personne n'en a parlé. Les Américains, depuis le discours du président Monroe en 1823, qui a fait donc la distribution internationale, les Américains se sont réservés tout le continent américain. Ensuite, ils sont devenus la puissance prépondérante au Moyen-Orient à cause de ces richesses. Mais dans l'imaginaire politique américain, l'Afrique est toujours la chasse gardée des anciennes puissances coloniales, notamment les puissances européennes. Donc, il n'est pas question de pouvoir s'immiscer dans les affaires de l'Afrique. Ensuite, il faut dire que les États-Unis commencent à s'intéresser à l'Afrique, notamment depuis qu'on a commencé à découvrir ici et là sur le continent d'immenses gisements de pétrole, de gaz. Et ensuite, le fait que la question du terrorisme et du grand banditisme, notamment le trafic de drogue, est devenu des phénomènes très prégnants sur le continent africain et qui sont considérés comme des menaces à la sécurité des États-Unis. D'ailleurs, lorsque la vice-présidente Harris a visité le continent en mars 2023, elle allait au Ghana, en Tanzanie et en Namibie, c'était plutôt des enjeux économiques et sécuritaires qui étaient donc à l'ordre du jour. Donc l'Afrique est désormais considérée par les États-Unis comme un lieu d'investissement et non d'aide. Donc il est intéressant que les États-Unis soient également présents, surtout lorsque leur concurrent le plus sérieux, la Chine, marque déjà beaucoup de points en Afrique. Ensuite, au Ghana, la vice-présidente a parlé notamment des problèmes sécuritaires, notamment avec la création de l'Afrique occidentale côtière, qui donc enlève cette partie de l'Afrique qui la distance du Sahel, qui pour les Américains, à cause du règne des djihadistes, est une zone qui est perdue pour plusieurs décennies. Les États-Unis viennent donc en Afrique, pas pour s'y mixer dans les affaires internes des Africains, mais surtout pour le commerce et la sécurité. Et Trump, qui est un homme d'affaires, il ne va donc pas tenir les États-Unis éloignés de cet Eldorado que constitue l'Afrique pour les investissements étrangers, surtout que, comme je l'ai dit tantôt, le grand rival, à savoir la Chine, marque des éléments. Ensuite, sur cette question, je voulais dire que la propension de Trump à mettre en avant les valeurs traditionnelles et familiales est plus proche des aspirations des Africains que la propagande LGBT qui a été faite par son prédécesseur. Donc ce n'est pas du tout un mauvais signe, le fait que l'Afrique n'a pas été citée dans le discours, l'Europe également n'a pas été citée, mais je crois que l'Afrique n'a vraiment pas à craindre le retour de Trump, surtout avec le bilan qui a été le sien lorsqu'il était au pouvoir il y a 4 ans.
Je voudrais juste indiquer pour celles ou ceux qui nous suivraient à l'instant que vous êtes à l'écoute de Radio de la Paix, l'espace donc c'est Entrevue. Nous parlons donc aujourd'hui du 47e président des États-Unis, Donald Trump, qui a prêté serment le lundi 20 janvier dernier. Et pour ce faire, nous recevons le professeur Camara Moritier. Il est enseignant-chercheur, professeur titulaire d'histoire des relations internationales et secrétaire exécutif de l'Association des spécialistes des relations internationales et des États stratégiques africains. Professeur Camara Moritier enseigne à l'université Alassane Ouattara de Boaké en Côte d'Ivoire.
Voici l'entrevue Radio de la Paix.
Alors, voyons un peu le volet économique en termes de relations États-Unis-Afrique. On a un président, vous l'avez souligné tout à l'heure, protectionniste, mais aussi un président ultranationaliste. Alors, parlant des relations économiques avec l'Afrique, quelles sont les perspectives?
Moi, je pense que les perspectives sont quand même bonnes, hein, parce que l'Afrique, d'abord, regorge d'énormes ressources. Ça, c'est connu de tous. Mmh. Et surtout, dans ces derniers temps, nous sommes en train de découvrir des métaux rares qui seront dans des technologies avancées qui sont en train d'être mises en place un peu partout. Donc je crois que sur ce domaine-là également, si nous nous situons dans la logique de Trump qui est essentiellement un homme d'affaires, je crois que les Africains qui sont en ce moment en train de chercher à diversifier un peu leurs partenaires économiques gagneraient à pouvoir faire des affaires avec les États-Unis, et je pense qu'il n'y a vraiment pas de crainte sur ce point-là.
Alors, autre mesure prise par Donald Trump, c'est la sortie donc des États-Unis de l'OMS, qui est donc l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que ce retrait des États-Unis de l'OMS ne va pas aussi être un retrait avec des conséquences négatives pour le continent africain, qui est bien souvent confronté à des épidémies, voire des pandémies?
Oui, sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais Donald Trump a des comptes à régler avec l'OMS. Et vous voyez, dans les premières mesures qu'il a prises en tant que nouveau président des États-Unis, c'est de réintégrer les militaires qui avaient été chassés de l'armée américaine parce qu'ils avaient refusé, n'est-ce pas, de se faire vacciner contre le Covid. Mmh. Donc ça, c'est une revanche. Ensuite, il faut dire que dans son fonctionnement, le budget de l'OMS est relativement le même budget d'un hôpital universitaire en Suisse. Et je crois que derrière ce retrait des États-Unis de l'OMS, il y a également la continuation de cette confrontation stratégique avec la Chine. Mais malheureusement, pour nous, pays africains, nous risquons donc de faire les frais, parce que quand même, l'OMS, c'est une organisation essentielle pour traiter les questions des pandémies et des grandes épidémies. Et on sait que l'Afrique est un réservoir de pandémies et d'épidémies. Et régulièrement, on a des épidémies de ceci ou de cela. Si l'OMS n'a plus les moyens de sa politique, je pense que ceux qui vont en payer le prix fort, ce sont les États faibles. Et malheureusement, c'est nous, les Africains.
Alors voyons aussi un autre aspect du Donald Trump 2 qui n'est pas très différent du Donald Trump 1. En le mettant face aujourd'hui à une carte qui se dessine en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest avec l'AES. Alors, est-ce que ce Donald Trump nationaliste, comme il le dit, sa formule « American first », ne va pas apparaître pour ses militaires au pouvoir au Niger, au Mali, au Burkina du moins, comme une caution quant à la ligne très nationaliste que ces derniers ont pointé et en pointent aussi.
Absolument. Donald Trump est une référence pour tous ceux qui font de la préférence nationale une priorité de leur politique. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais maintenant, quand il s'agit de l'AES, Donald Trump est quelqu'un de franc, est quelqu'un de pile. Il est aussi très rancunier. Et je ne crois pas que Donald Trump pourrait, par exemple, pardonner à un pays comme le Niger d'avoir mis à la porte l'armée américaine. Et vous vous souvenez que à la suite de cet ordre du Niger fait à l'armée américaine de quitter le territoire, un sénateur républicain avait suggéré que l'armée américaine refuse de quitter le sol nigérien et en retour bombarde plutôt le Niger pour montrer qui est le maître. Bon, quand on passe sur cette anecdote pour venir beaucoup plus sérieusement à ce qu'on dit, je crois que d'abord, si les États-Unis restent dans la même ligne de méfiance vis-à-vis des États de l'AES, cela pourrait également compliquer, n'est-ce pas, les efforts que ces États-là font pour sécuriser ou bien pour lutter contre les terroristes. Sur un seul plan, le plan du renseignement. Parce que l'armée américaine, qui avait donc sa base de drones à Agadez, travaillait beaucoup sur le plan de renseignement pour indiquer aux armées de cette zone-là les plans de déplacement des djihadistes, etc. Donc cela risque de manquer. Mais sur le plan économique, comme on le dit, la nature aurait du vide. Et Donald Trump, c'est d'abord, avant tout, un homme d'affaires. Donc, il pourrait être tenté de pouvoir lancer les compagnies américaines dans la compétition pour occuper les places qui ont été laissées vides par la France, par exemple, dans l'exploitation de certaines ressources de cette zone, notamment l'or et l'uranium. Voilà.
Parlant des conflits, aujourd'hui, l'un des conflits qui perdure et qui marque l'actualité mondiale, c'est celui donc de l'Ukraine. Alors, concernant ce conflit, Donald Trump l'a dit bien avant même sa prestation de serment. Il avait dit qu'il y mettrait fin rapidement. Est-ce que c'est un engagement auquel on peut y croire? Et quel schéma vous pensez qui pourrait se dessiner à ce niveau?
Je crois que l'Ukraine, ce n'est pas un sujet important pour Donald Trump.
Malgré la promesse qu'il a faite de mettre fin au conflit?
Non, je viens. C'est-à-dire l'Ukraine, ce n'est pas un problème fondamental pour Donald Trump. Le véritable danger sur le plan international pour contrer la toute-puissance de l'Amérique, c'est plutôt la Chine. Donc, je pense que Donald Trump est intéressé à économiser, n'est-ce pas, l'armée américaine et toutes les ressources de l'armée américaine pour pouvoir affronter la Chine. Donc, il pense que l'Ukraine, c'est en Europe, c'est une question des Européens. Et donc, c'est plutôt à l'Europe de faire le maximum d'efforts pour pouvoir mettre fin à cette guerre et non à lui. Il avait promis lors de la campagne pouvoir mettre fin à cette guerre en 24 heures. Tout le monde savait que c'était impossible. Maintenant, dans son discours après son investiture, il a dit qu'il pense que 6 mois, c'est beaucoup plus réaliste. Mais je pense qu'il serait dans une posture qui va quand même mettre la Russie en confiance pour négocier. Parce que jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est-à-dire les puissances européennes avec le gouvernement de Joe Biden, ils avaient coupé tout canal de communication officiel avec la Russie. Et ils voulaient forcément amener la Russie, comme ils le disent, à une défaite stratégique. Je pense que ce n'est pas la pensée de Donald Trump. Pour Donald Trump, il faut mettre fin à cette guerre. Et je vous ai lu tout à l'heure l'une de ses pensées quand il a fait son discours, qui dit « Le plus grand honneur pour moi est de rester dans l'histoire comme un pacificateur, celui qui met fin aux guerres et qui empêche que de nouvelles guerres commencent. » Et donc je pense que sur cet élément, c'est un élément important. Et comme un élément de pression sur le camp de Zelensky, il a donc suspendu pour 90 jours toute aide des États-Unis à l'étranger, y compris à l'Ukraine, pour essayer de faire le point. Est-ce que les sommes que les Européens, les Occidentaux investissent dans cette guerre va aboutir à quelque chose ou ça serait des sommes perdues. Je pense que dans son administration, l'idée générale est que cette guerre ne peut pas être gagnée par l'Ukraine et tous les investissements que les Occidentaux ont fait depuis 3 ans, donc ce sont des investissements qui sont perdus. Je crois qu'un très bon homme d'affaires qui compte chaque sou qui sort, il fera tout pour mettre fin à cette guerre uniquement pour pouvoir économiser d'abord de l'argent et ensuite se consacrer à celui qu'il pense être l'ennemi mortel des États-Unis, c'est-à-dire la Chine.
Bon, sans oublier aussi, professeur, je rappelle donc Camara Mauritier, que les États-Unis aussi ont grandement soutenu l'Ukraine avec des milliards de dollars d'aide militaire qui ont été investis là-dedans.
Oui.
Qui ont été donnés du moins à l'Ukraine.
Oui, Donald Trump a dénoncé cela. Si vous vous souvenez, il a dit Zelensky, c'est un bon négociateur. À chaque fois qu'il vient chez nous, on lui donne au moins 100 millions. Donc il a dénoncé cela et plusieurs fois, il y a eu des blocages de l'aide au Congrès ou au Sénat.
Du fait des Républicains.
À l'initiative, voilà, des proches de Donald Trump. Donc, moi, je crois que l'Ukraine même a compris que cette voie de la guerre ne va mener nulle part. Et puisque maintenant, Zelensky est en train de penser après la guerre, parce qu'il est en train de négocier en sorte que au moins 200 000 soldats occidentaux européens puissent être en Ukraine en cas de signature d'un cessez-le-feu.
Alors dans le même temps, les États-Unis renouvellent leur soutien inconditionnel, inébranlable. D'ailleurs, c'est ce que a laissé sous-entendre le nouveau secrétaire d'État américain à Israël. Alors, il y a aussi donc le Moyen-Orient, donc qui est aussi une priorité pour les États-Unis. Ce soutien inconditionnel des États-Unis à Israël, de bon augure pour arriver à une stabilité dans la zone ou encore des foyers de tension à venir?
Il faut dire d'abord que toute la politique américaine, quel que soit celui qui est au pouvoir depuis la création d'Israël en 1947, est d'empêcher la destruction d'Israël. Ça, toute la politique étrangère des États-Unis au Proche et au Moyen-Orient est faite autour de cela. Et quel que soit celui qui vient au pouvoir, quelle que soit sa couleur politique, c'est ça. Ensuite, Trump est très proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Vous voyez, quand il est arrivé après son discours, il avait prévenu Hamas pour dire si les otages ne sont pas libérés avant mon inauguration, ça va chauffer. Et on a vu quelques heures avant l'inauguration, quelques otages ont été libérés. Mais je pense que plus prosaïquement, Trump l'a montré dans son premier mandat. Autant il avait donc des comptes à régler avec la Chine, autant il avait donc pris l'Iran en grippe. Donc je crois que le pays qui risque d'avoir assez de complications pendant ces 4 prochaines années, ça serait plutôt l'Iran. Voilà. C'est donc Trump qui a sorti les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien qui a été négocié par Obama en 2015. Et tout le soutien que Trump donne à Israël, c'est pour que Israël puisse faire face à l'Iran. Donc je crois que si du côté de l'Ukraine, l'arrivée de Trump peut essayer de calmer les choses. Au Moyen-Orient, par contre, cela risque de compliquer un peu plus. Surtout que la Russie, avec sa préoccupation en Ukraine, s'est retirée donc de cette zone-là. Donc finalement, le seul pays qui représente la communauté internationale au proche au Moyen-Orient, aujourd'hui, ce sont les États-Unis.
Alors, professeur Camara Mauritier, nous voulons vous dire merci de ce temps d'antenne qui nous a été accordé. Avant de vous dire au revoir, qu'est-ce qu'on devrait donc retenir aujourd'hui de Donald Trump 2? Il va se rebeller avec le personnage qu'on a connu pour son premier mandat ou bien on doit s'attendre à des changements notables qui pourraient permettre une accalmie au plan mondial, un monde plus en paix, un monde plus stable et aussi pour l'Afrique de bonnes nouvelles en vue?
Oui, moi je pense que Donald Trump, comme je l'ai dit, on l'accuse d'être imprévisible, mais c'est le plus prévisible parce qu'il dit toujours ce qu'il va faire et il fait ce qu'il dit. D'abord, pour l'Afrique, je pense que c'est quand même une opportunité au moment où nous cherchons à diversifier nos partenaires économiques d'avoir à la tête de la première puissance économique un homme d'État, surtout un homme d'affaires qui cherche donc à faire des affaires. On a reproché à Donald Trump de n'avoir pas visité l'Afrique lors de son premier mandat. Mais j'aimerais dire également que Biden également, il est venu en Afrique à quelques semaines de sa sortie de la Maison-Blanche, c'est-à-dire le 4 décembre dernier, exactement, alors que oui. Trump avait déjà été élu. Mais il faut remarquer que si Trump n'est pas venu en Afrique lors de son premier mandat, il y a quand même sa fille, Ivanka Trump, qui était donc son conseiller, qui a effectué une visite officielle en Éthiopie et en Côte d'Ivoire en avril 2019. Elle a passé 2 jours dans chacun de ces pays pour la promotion des initiatives américaines destinées à l'autonomisation financière des femmes. Et en Côte d'Ivoire, elle a visité Azopé, des plantations de cacao, et elle a participé également à une réunion sur les opportunités économiques des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Et Trump lui-même, dans le cadre du 72e sommet des Nations Unies, a réussi à déjeuner un certain nombre de présidents, dont le président Alassane Ouattara. Et j'aimerais vous rappeler un pan de son discours lors de cette réception qui a eu donc lieu le 20 septembre 2017 en marge de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Il a dit ceci à ses hôtes africains: « L'Afrique a un potentiel commercial énorme. J'ai beaucoup d'amis qui y vont pour essayer de devenir riches. Le potentiel commercial est énorme et présente d'énormes parts de marchés différents pour les sociétés américaines. C'est vraiment devenu une destination incontournable. 6 des 10 économies les plus dynamiques du monde se trouvent en Afrique. » Donc, voyez, donc ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels on peut se baser pour dire que Donald Trump, lorsqu'il va venir, donc ça serait vraiment une opportunité pour les pays africains. Si ces éléments-là, l'Afrique n'a vraiment pas à craindre Donald Trump, l'Afrique devait être enthousiaste de travailler avec quelqu'un qui ne passe que le commerce, etc., etc. Maintenant, sur d'autres éléments, s'il arrive à mettre fin à cette guerre qui a depuis 3 ans en Ukraine, je pense qu'il aura contribué grandement à pacifier l'espace international, parce que les pays africains sont donc liés pour leurs importations en engrais à l'Ukraine et à la Russie, qui sont les 2 plus grands exportateurs mondiaux. Et cette guerre, donc, bouleversait un peu les chaînes d'approvisionnement. Donc, voilà, moi, je suis assez confiant que Donald Trump fera beaucoup de choses, mais que les Africains, quand même, n'auront pas en partie de ce second mandat.
Nous vous disons merci, professeur Camara Moritier, d'avoir accepté notre invitation pour ces éclairages suite à l'élection de Donald Trump comme 47e président de la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique. Et nous avons été heureux de vous recevoir à Radio de la Paix dans notre espace entrevue. Et je rappelle donc que vous êtes enseignant-chercheur, professeur titulaire d'histoire des relations internationales et secrétaire exécutif de l'Association des spécialistes des relations internationales et des études stratégiques africaines. Et vous êtes enseignant à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Merci à vous, professeur Camara Moritier.
C'est moi qui vous remercie et bonne journée.
Voilà, quant à vous, mes auditeurs, nous vous disons merci d'avoir donc suivi ce temps d'entretien dans Entrevue. Bonne suite d'écoute de nos programmes et à très bientôt pour un autre numéro de Entrevue sur Radio de la Paix.